Alors, vu que ça ne se bouscule pas, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Sinon, on peut remonter un peu les questions qu'il y a eu dans le chat.
Il me semble que Cap avait une question qui semblait intéressante.
Alors, Cap, au niveau des états, comment pouvoir auditer le hardware pour s'affranchir des portes dérobées, failles sur le hardware non. Alors, il y a des techniques. Alors, par contre, au niveau des états, je comprends pas très très bien. Mais en fait, la technique pour voir si on copie ou pas la technologie, soit tu mets en fait ton sigle dessus, et en fait, bon, tu peux l'enlever effectivement. Donc ça c'est la première étape. Sinon, en fait, il y a des reconnaissances de patterns, de modèles. En gros, quand tu fais un dessin de technologique sur, par exemple, une IP physique. Et eh ben en fait tu vas dire ben voilà ça c'est un truc que je vais reconnaître et du coup il y a un outil qui va parcourir tout le chip et qui va voir est-ce que ce modèle apparaît et s'il apparaît il va dire ah voilà il est apparu une ou deux fois est-ce que ça correspond à ce que vous avez payé et du coup il va dire oui ou non c'est dans la règle ou pas. Mais après il y a toujours effectivement des façons de tricher en rajoutant un petit truc, en changeant. Mais en fait, au niveau de la gravure, on va dire, du circuit intégré, on va dire, c'est tellement contraignant au niveau des règles que tu peux pas vraiment tricher dessus. Tu peux pas rajouter des choses ou enlever des choses. Parce que c'est hyper dense, il y a 70 millions ou je sais plus de transistors dedans, milliards plutôt, pas milliards. Et du coup, tu peux rien changer sans vraiment tout casser. C'est tellement fin au niveau de la gravure que si tu rajoutes quelque chose, bah, ça risque de faire un court-circuit ou autre chose. Pouvoir utiliser gratuitement sans payer le droit, un truc vieux. Alors oui, effectivement, alors... par exemple, les anciennes licences, tu pourras, et je pense que tu pourras demander à des vendeurs d'IP qui diront oui, ben on vous la donne, et si jamais vous faites un truc, on prendra des royalties, mais à très bas coût. Bon, après, ils sont des vendeurs, donc ils essaieront toujours d'avoir de l'argent, mais après, ils sont assez ouverts à tout ce qui est législation pour les universités, pour la recherche. Ils font souvent parfois ils font gratuitement, ou alors ils font des prix pour les entreprises qui disent ben, nous on est une start-up, nous on fait de la recherche. Du coup, ça, c'est, parce qu'en fait pour eux c'est intéressant, ça prouve que leur circuit fonctionne, ça montre que ben, y a des nouvelles choses qui peuvent être définies, donc du coup pour eux c'est un plus quoi.
D'accord, mais du coup ils lâchent pas de brevet quoi, enfin leur brevet il devient pas libre à un moment donné quoi.
À part que le brevet donc se termine au niveau légal, le brevet ne devient rarement, enfin pratiquement jamais libre. C'est assez nouveau, hein, ça a que 20 ans, on va dire, à peu près 20.
Ouais, du coup, il n'y a pas encore 25 ans.
Voilà, t'es même pas dans les.
Et puis, en fait, je pensais à un truc obsolète qu'on n'utilise plus, mais bon, comme tu disais, là, c'est un peu relatif selon les endroits. Après, ce qui est obsolète par chez nous. Et peut-être envoyé, disons, dans d'autres pays où ils ont moins de technologie, et réutilisé, revendu à plus bas coût, quoi, peut-être.
Oui,
un peu comme les médocs.
Voilà, comme les médocs et les vaccins. Oui, effectivement, c'est vrai que ce que nous on dit obsolète, pour d'autres pays, c'est peut-être technologiquement toujours avancé. Ouais, les backdoors en hardware, c'est assez compliqué. Mais
est-ce qu'il y a une limite physique de la taille des microprocesseurs?
Alors, je pense que tu veux dire de la taille du transistor de base, c'est ça?
Ouais, de la puce qui s'appelle microprocesseur.
Alors, en fait, la puce en elle-même, en général, elle fait 1 cm carré, à peu près, en gros. Et justement, on essaie de limiter cette taille-là. parce que bah, sinon ça prend trop de place. Quoique peut-être dans les iPhones elle est un peu plus grosse. Elle doit faire peut-être 200 carrés. Et du coup, on essaie toujours de mettre plus dense, donc c'est pour ça qu'on grave toujours plus petit pour mettre plus de choses. Il n'y a pas de taille minimum pour un microprocesseur, donc tu peux faire juste un truc qui fait oui/non avec un transistor. Après, l'intérêt est limité, effectivement. Au niveau, par exemple, de la brique de base, il y a des, enfin, des recherches sont faites sur des nanotubes, donc des choses qui sont nanométriques, qui font 1 ou 2 nanomètres, ce genre de choses. Mais il n'y a pas vraiment de limite, à part la limite physique de l'atome, quoi.
Ok, super. Donc rien n'empêche ces fabricants de, enfin comme Intel a fait avec ses Xeon, je crois, pour rivaliser avec AMD, d'en mettre un à côté de l'autre et de dire voilà, ça c'est un processeur.
Ouais, c'est ce qui se fait souvent, c'est les multicores. En gros, effectivement, comme tu dis, ils mettent plusieurs processeurs les uns à côté des autres. Et ils disent que voilà, il y en a un qui est plus optimisé pour du calcul, l'autre qui est plus optimisé pour du traitement, je sais pas, de signal. Et du coup, ils alternent entre les uns et l'autre. Il y en a un qui se met en veille, l'autre qui s'allume, etc. Alors qu'avant, il y en avait un seul gros pour tout ça. Et du coup, c'est un peu de la triche, mais voilà, on entend souvent du 8 cœurs, octa-cœurs, pentacore, enfin, 16 cœurs ou 48 cœurs pour certains serveurs. Mais en réalité, c'est juste de la densité, enfin, c'est plusieurs. Processeurs mis un à côté des autres, avec un petit traitement par-dessus en disant voilà, ils peuvent communiquer entre eux. Mais oui, c'est un peu de la triche, moi je trouve.
C'est un peu des ASICS.
Ouais, c'est un peu des années aussi.
Ah non, là je parlais du coup de Intel qui, pour rivaliser avec AMD, je crois, il y a 2 ans, avait soudé deux processeurs physiques Xeon pour faire face aux 64 cœurs, je crois, d'AMD.
Ok, je sais pas exactement ce que c'était, mais.
Qu'est-ce qui
Oui,
les empêche de faire ça à la chaîne en fait?
ah, tu peux, hein. Après, le problème, c'est que si tu le fais en production, il faut que ce soit au niveau donc de ta consommation d'énergie, la dissipation d'énergie, que ce soit efficace. Parce qu'en fait, en réalité, la différence principale entre tout ce qui est les cœurs Intel, donc qui sont des gros processeurs pour du calcul d'ordinateur, c'est qu'eux, ils sont dissipatifs en énergie, énergivore, et par contre, ils sont très puissants, et ils sont multitâches. Alors que pour les smartphones, c'est très petit avec un nombre réduit d'actions et il consomme très peu. Du coup, en fait, il y a ces deux parties. Soit tu consommes, tu fais des gros trucs, tu fais petit et ça consomme moins.
Pour compléter, par rapport au fait d'utiliser plusieurs processeurs en parallèle, il y a une grosse contrainte qui est la latence mémoire. C'est-à-dire que si on a plusieurs cœurs qui sont loin les uns des autres pour faire des accès mémoire, si tu utilises la même mémoire, elle va être plus loin, donc ça va être des temps plus longs. Et en fait, tu vas perdre de la performance si tu essayes de coller juste plein de cœurs ensemble.
D'accord, ok, merci beaucoup.
Alors, pour assurer la maintenabilité des matériels, est-ce que les documentations sont accessibles pour tous les matériels ou c'est au petit bonheur la chance? Alors, normalement, ils travaillent assez bien. Effectivement, la documentation est accessible pour tous les matériels. Du coup, la documentation, en général, elle est assez libre de droit, enfin, elle est libre d'accès, parce que justement, quand tu vas dire, ouais, je vais faire ma recherche pour savoir quelle est la meilleure petite brique là qui m'intéresse, je vais pouvoir comparer. Et en gros, quand tu compares, donc, si elle consomme beaucoup, si elle est assez rapide, ce genre de choses. Après, il n'y a pas de maintenance, parce que l'objet ne change pas. En général, tu as une licence, c'est défini, et puis il reste tel quel. Du coup, en fait, il n'y a pas de maintenance. Mais il t'est arrivé que des. Alors, c'était quoi ça? Ah oui, c'était pour un projet donc spatial. C'est pour ça que le spatial, ils n'aiment pas. Donc, il y avait un projet spatial qui avait été fait en 2003. 2004, et du coup, ils sont revenus en disant: Ouais, on a besoin que vous nous refassiez des IP pour notre satellite parce que les IP qu'on avait, elles ont grillé et elles sont plus bonnes. Et du coup, on a changé le truc. Donc, du coup, ils sont revenus avec un projet qui avait plus de 10 ans et il vous revoulait en fait tout l'historique. Et le problème, c'est que en microélectronique, ça change tellement rapidement qu'on a perdu l'historique, on a perdu les gens qui savaient faire, on n'avait plus tous les IP. Donc ça, c'est aussi une question de comment conserver tout l'historique là-dessus.
Est-ce que c'est lourd un fichier comme ça?
Non, non, c'est très léger, hein. Il y a pas plus de 200 pages. Hein.
Je parlais du coup du fichier de l'architecture du microprocesseur.
Oui, c'est pas très gros. Hein.
Ok, d'accord.
C'est assez technique, mais c'est pas très gros. Et donc la question de l'archivage effectivement en data. Plus la technologie augmente, plus tu as de données en fait. Avec les derniers nœuds, je sais que par exemple avec un client, on échangeait plusieurs centaines de terabits par jour. Pour que eux ils téléchargent donc toutes les données de l'IP physique. À un moment, c'était tellement lent qu'ils ont dit, ok, ce que vous faites, vous mettez tout ça sur un disque dur et vous nous l'envoyez par la poste.
Petite question, j'imagine que ces domaines et ces activités de microélectronique sont très fragiles et précaires vu toutes les dépendances qu'il y a au niveau des matières premières, des chaînes de production. On entend qu'il y a une pénurie des processeurs, les blockchains, tout ça, tout ça. D'un côté, il y a la loi de Moore, et de l'autre, ça commence un petit peu à grincer, non, dans les process de fabrication ou... Tout ça.
Tu as tout à fait raison. Alors c'est un problème qui est évoqué depuis quelques années déjà. Il n'y a pas le, enfin le Covid a été un petit peu un facteur où on a plus mis ça en valeur. Mais oui, c'est un problème de ressources primaires parce que dans un chip, tu as beaucoup d'alliages de terres rares. Et du coup, pour avoir accès à toutes ces matières premières, il faut les ressources. Et la plupart des grosses ressources, elles sont accessibles que dans certains endroits du monde. Et effectivement, ça devient... Alors, c'est pas encore un enjeu. Ça commence à être à se questionner. Mais dans les quelques années qui vont venir, effectivement, ça va être le gros sujet de comment est-ce qu'on va... réinventer la microélectronique pour qu'elle soit moins dépendante de toutes ces matières premières.
Pour parler aussi un peu de ça, il y a le fait que le problème aussi, c'est que les fabs, les nœuds technologiques les plus récents sont en nombre très limité et ont des débits, des capacités de production assez limitées. Dans des nœuds plus anciens, il y a plus de capacité, donc on peut encore produire des choses plus anciennes, mais ce n'est pas forcément les plus performants, donc ça peut poser des problèmes pour ceux qui veulent des circuits très performants, comme ce qu'on met dans des PC.
Ouais, tout à fait, Art. Donc il y a une question de Cap, y a-t-il du low-tech en termes de dev? Alors oui, il y en a. Oui, il y en a. Il y a de tout en fait, vu qu'il y a énormément de demandes. Il y a du low-tech, il y a de la tech de base. Où il y a par exemple des entreprises qui vont faire, au lieu d'aller toujours dans la nouvelle technologie, ils vont dire ok, nous on reste dans les vieilles technologies, des assez gros nœuds. Par contre, on optimise à fond la performance et l'architecture. Du coup, parfois, ils arrivent à rivaliser avec les nouveaux nœuds technologiques en termes de performance. Alors, Antidote disait, c'est un enjeu déjà non quand on voit les prix varier en fonction de la politique Taïwan. Alors, de ce que j'ai entendu, effectivement, je ne sais pas exactement de manière technique parce que je ne suis pas dans les FAB. Ils n'ont pas de problème d'approvisionnement, peut-être de prix, mais après, peut-être que les prix vont les répercuter sur, sur les produits. Mais j'ai pas entendu dire textuellement, voilà, on a un problème au niveau d'approvisionnement, là on est en rupture, ce genre de choses. Et là, c'est pas trop open source tout ça, effectivement. Par contre, pour l'open source, ça, il y a des IP qui sont open source, c'est-à-dire que depuis 5 ou 6 ans, je ne sais plus, il y a une architecture qui s'appelle le RISC-V, qui est un peu le concurrent de ARM, qui est open source, qui est développé, je ne sais plus par qui.
Par Berkeley.
Par Berkeley, voilà, c'est ça. Et du coup, qui. Bon, il n'arrive pas à arriver sur le marché parce qu'il y a une trop grosse prédominance de ARM, mais qui est open source et qui permettra justement d'avoir des choses. Des échanges plus intéressants. Après, il faut qu'il y ait des personnes qui aient l'expertise là-dessus pour pouvoir développer. C'est le principe de ARM, low-tech. Alors, ARM, ils ont plutôt du high-tech plutôt que du low-tech. Ils essaient toujours d'avoir l'innovation et d'être en avance, enfin de mener le marché. En réalité, ils ne mènent pas trop le marché, ils répondent plutôt aux besoins.
Et du coup, HK, tu parlais de terreur tout à l'heure. À part le silicium, est-ce que tu sais ce qu'il y a dans un processeur comme terreur?
Alors j'avais la liste, mais j'ai pas fermé la fenêtre.
Ah, donc il y en a d'autres.
Oui, oui, il y en a beaucoup. Et en fait, ça a changé au fur et à mesure des années, parce que plus la technologie évolue, plus en fait tu vas utiliser des nouvelles terres rares, parce que tu dis, ah oui, là il y a une meilleure conductivité, ah oui, là c'est plus stable. Du coup, à chaque fois, ça évolue. Et là, je crois qu'on est à 128 matériaux, dont la moitié c'est des terres rares, je crois.
Ah ouais, ok.
Dans l'idée, il y a Lin6 qui demandait quid de la recyclabilité des composants, effort dans le domaine, situation actuelle.
Alors, je connais pas trop. Mais j'ai rarement entendu dans les fabriques ou dans la microélectronique le recyclage en tant que tel. C'est-à-dire que les acteurs s'en occupent pas trop. Ils disent que pour l'instant c'est pas intéressant. Et laissent ça à d'autres personnes qui veulent bien faire le recyclage. Parce qu'en fait le recyclage actuel, je crois que la plupart des éléments qui sont repris, c'est l'or et le palladium, je sais plus. Je ne sais plus lesquels des deux, il faudra que je regarde. Et en fait, tout le reste est détruit. C'est-à-dire qu'ils utilisent des produits chimiques pour ronger tout le reste et garder que ces deux métaux parce que c'est eux qui rapportent le plus.
Et c'est d'ailleurs ces images qu'on peut voir des fois de décharges en Asie où les gars, même les enfants, chopent des cartes mères, les font fondre et compagnie, récupèrent l'or et les métaux.
Faut quand même différencier ce qu'on fait sur des PCB, c'est-à-dire c'est des cartes mères, des choses comme ça, et ce qu'il y a dans les composants. Les composants, ils sont tout petits, c'est tout serré, c'est tout assemblé ensemble. C'est très difficile à séparer, alors que sur une carte mère, c'est beaucoup plus simple à séparer les métaux.
Ah, ok.
Tout à fait. Et avant, les processeurs, donc ils étaient soudés en fait avec ce qu'on appelle du wire bond, donc des fils, qui était en or, parce que justement c'était pour avoir le moins de corrosion et le maximum de conductibilité, parce que l'or c'est ce qui conduit le mieux. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est du flip chip, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de connexion avec des fils et qu'ils retournent. Donc, du coup, il y a encore moins d'or que ce qu'il y avait avant. Alors, Twigo, qu'est-ce que tu entends par glisser vers un mix organique et tech? Tu veux parler des humains avancés?
Non, pas nécessairement, mais trouver des. Bah, je sais pas, des trucs organiques pour, je sais pas, remplacer certaines matières qu'on peut synthétiser, par exemple, comme ça, au lieu d'utiliser des métaux ou des terres rares, des conneries comme ça, tu vois.
On va prendre des neurones sur des gens, on va les foutre dessus. Je
Ou
connais pas la
après,
réponse.
il y a des matières organiques autre part que dans nos corps.
C'était plus marrant avec les neurones, mais oui, je sais pas ce que tu veux dire. Je connais pas trop ça, effectivement. Peut-être que c'est intéressant si t'as des documents dessus, moi, je suis preneur.
Non, bah là j'en ai pas sous la main. Mais bon, j'avais de temps en temps vu, après je savais pas trop si c'était des scams ou pas, quoi, mais bon. Après c'est pas avant 50 ans, 100 ans. Mais bon, je sais pas. C'est une question que je me posais, c'est tout.
Ouais, bah intéressant la question, je vais regarder.
Oups. Oups, je me suis trompé de lire. Il y a un article de Nature qui est publié il n'y a pas longtemps, que je viens de publier. Et justement, c'est sur des processeurs ARM flexibles qui sont faits avec des matériaux organiques, justement.
Ah, intéressant ça. Donc il y a bien de la recherche un peu dans ce sens-là, quoi.
Il y a de la recherche, mais par contre, c'est des processeurs qui ont plus de 20 ans de retard par rapport à ce qu'on fait à l'heure actuelle.
Oui, bien sûr, pour l'instant, c'est sûr. C'est que à peine le début. Enfin, c'est même pas le début, c'est un embryon de recherche, quoi.
Ça va assez vite, hein.
Ça peut, ouais. S'il y a des intéressés, et puis vu qu'après, bon, si on arrive à synthétiser des trucs comme ça, sans moins polluer, sans les chercher dans des mines ou des trucs comme ça, bah, ça peut être mieux. Pour du long terme.
Alors, Dany pose la question, est-ce qu'il y a des informations sur le Neural Link d'Elon Musk? Alors, ça fait ouais, quelques années, à peu près 2000, on a quoi, 2021, 2015, donc ouais, 5 ans, que tout ce qui est Deep Learning, Neural Link, enfin, Neural Network, qui est en recherche dans les conférences en microélectronique, tu vois souvent des panneaux à gens qui exposent ça. Et il n'y a pas vraiment d'avancée majeure. Par contre, par rapport à ce que enfin, l'idée d'Elon Musk, on n'y est pas encore. En tout cas, moi, j'ai rien vu de tel. Peut-être que lui, dans son côté, il y est. Mais j'ai vu beaucoup de recherches, mais pas vraiment d'avancée significative. Moi, je pense que d'ici 10-15 ans, on n'aura pas vraiment de choses vraiment très performantes avec ça. Après, c'est un avis personnel. Ah, la photonique. La photonique, effectivement, ça peut être très intéressant. Donc, ouais, il faut savoir que, donc, comme c'est des signaux électriques, ça va à la vitesse de la lumière. Donc, lorsqu'on a une échelle, par exemple, du nanomètre, la vitesse transmission, en fait, du signal électrique, elle est quand même de 3 10 puissance 6 par picoseconde. Enfin, 3 10 puissance 8 nanomètres par picoseconde. T'as 300 000 nanomètres qui fait en une picoseconde, donc c'est-à-dire qu'il va quand même très vite. Et pour la photonique, effectivement, donc il y aurait des capteurs, ce serait plutôt une électronique, enfin, une photonique. Il y aurait moins de dissipation, parce qu'en fait, comme c'est un signal électrique actuellement, il y a de la dissipation, il y a de la perte d'énergie, il y a de la résistance, il y a beaucoup de choses. Ce que par exemple le graphène, il y a eu des recherches qui disaient ouais ça peut éviter ça, à voir. Donc la photonique effectivement ça évite ces problèmes d'échauffement, de résistance, et ils sont peut-être intéressants. Donc je connais pas trop de recherches là-dedans, en tout cas dans l'industrie en tant que telle, mais il y a sûrement des boîtes qui doivent le faire.
Moi, je sais qu'il y a des gens qui le font, mais c'est plus pour des interconnects, c'est-à-dire pour faire communiquer deux puces, et c'est de ça que parle le lien de CAP. C'est pour faire communiquer deux puces en même temps, ensemble, et c'est pas vraiment pour faire du calcul.
Et oui, Gatsby, je suis d'accord avec toi, le monde merveilleux du graphène et ses promesses. À voir. C'est difficile à faire, à mettre en place, mais pareil que l'ordinateur quantique, hein, il promet beaucoup de choses.
Tiens, une question, je ne sais pas si ça te parle, Ashkanen, est-ce que ça tombe dans ton sujet? Un membre ici nous parlait du fait que plus qu'avant, on se mettait à graver de l'information directement dans le hardware et dans la silice. Ça rentre un peu dans ton sujet ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Ah, je t'entends pas, Ashkamen.
Là, c'est mieux. Là, c'est mieux.
Oui, là, c'est bon.
Voilà, j'avais changé une option. Ouais. Du coup, en fait, la première chose qui me vient à l'esprit, ce serait plutôt tout ce qui est Random Access Memory. Actuellement, en fait, elles ont besoin en fait d'énergie pour pouvoir. Pour pouvoir perdurer, c'est-à-dire qu'elles sont tout le temps alimentées. Enfin, en fait, c'est des points mémoire. Et je sais, enfin, il y a des développements qui sont sur des points mémoire magnétiques ou de spin. Alors, j'ai pas regardé depuis, mais c'était en développement dans les industries il y a 1 ou 2 ans. Il y a eu beaucoup d'articles, puis là, j'en vois plus du tout, donc j'ai pas regardé. Et du coup, ça permet justement d'inscrire les data de manière physique et de manière longue. Dans ce sens-là, effectivement, c'est plus de l'inscription de données dans le hardware. Après, dans le gravage de silicium de l'information, j'ai du mal à comprendre comment on pourrait faire pour mettre de l'information directement gravée.
Ok,
Peut-être comme
comme
du
du
Morse.
Morse.
Ouais, il y a des possibilités, hein. Par exemple, on pourrait
Ou du braille, pardon.
lecture par les personnes. En vrai. Il y a la possibilité en fait de dire, ok, on fait une architecture qui, dès qu'on va processer cette architecture, ça va sortir l'information. Il y aurait ce moyen-là. Sinon, après, il y aurait les moyens des mémoires déjà préprogrammées. Il y a des moyens, je pense, de faire ça. Je sais pas trop si c'est fait dans l'industrie. Je crois pas, de ce que j'en connais. Voilà, les mêmes restores. Question de cap. Pour le futur, il me vient à l'idée l'esprit de dans l'esprit de cyberpunk. Quid des royalties, des IP dans un cadre d'un implant oculaire par exemple? C'est une bonne question. Est-ce que tu devras payer à une entreprise privée cet implant oculaire, des puces dans le cerveau? Mais moi ça m'étonnerait pas. De Gatsby. Et du coup, il n'y aurait pas moyen de fabriquer des microprocesseurs avec moins de terres rares différents, genre silicium, cuivre, or et Smar, une sorte de low-tech des terres rares. Alors, oui, si tu retournes dans des anciennes technologies avec des grosses gravures, c'est sûrement possible. Après, bah, tu perds en efficacité, en intégrabilité. Mais oui, c'est toujours possible.
Et la France, dans tous ces marchés, on va dire, tu parlais d'une usine ou alors d'une fonderie qui était assez négligeable.
Ouais, alors en France, on n'est pas. Enfin, si, il y a la fonderie, donc STMicroelectronics, qui est à moitié donc française et italienne. Donc elle produit pas mal. Assez spécifique. Et en fait, j'ai parlé donc de Dolphin par exemple, qui est donc vendeur d'IP physique, qui est assez bien classé, enfin qui est assez bien représenté. Je sais pas quel est son chiffre d'affaires. Dolphin, je vais trouver ça.
Sinon, les géants du marché, c'est plutôt en Asie.
Pas tellement. Les géants du marché, il y en a un peu partout. Principalement, donc. Alors ceux qui produisent, oui, c'est en Asie, globalement Asie et Nord-Amérique. Ensuite, pour tous ceux qui conçoivent, c'est il y en a plutôt, donc il y a Europe et États-Unis, il y en a aussi en Asie quelques-uns. Et après pour les acheteurs de microélectronique, ça c'est plutôt les gros style Samsung, Apple, quoi que Samsung produit lui-même aussi.
Et du coup, pourquoi est-ce que dans les productions de processeurs, imaginons ils partent sur un modèle, je ne sais pas, moins 48 cœurs, et du coup, il y en a qui ne marchent pas, et donc ils sont obligés d'en désactiver. Et du coup, faire des gammes en dessous avec moins de cœurs.
Alors, je pense que tu parles dans les cas où en fait, il y a un accident de production et que ben, l'objet est défectueux. Du coup, en fait, en général, quand ça arrive, effectivement, ils disent que c'est la gamme d'en dessous. Alors, soit, parfois, ça arrive aussi dans la gamme normale, soit parfois, t'as des produits, ben, t'as l'objet défectueux, t'as pas de chance. Parce que alors, les objets sont fabriqués en chaîne, mais ils sont pas exactement les mêmes, puisqu'il y a tellement de variabilité dans la façon de fabriquer, que ben, tu peux avoir des trucs qui marchent pas très bien. Normalement, ils sont tous testés, mais pas pour tout. Et du coup, bah, t'as des bas de gamme quand ils testent, effectivement, ils voient que c'est vraiment des performances très très basses parce qu'il y a un cœur qui marche pas. Et souvent, après, c'est vendu à des autres vendeurs de téléphones qui sont un peu moins performants que les autres.
Et pour compléter, encore une fois, ce qui se passe, c'est que sur un wafer, on met, donc c'est une plaque ronde sur laquelle il y a tous les circuits qui sont mis et qui sont découpés ensuite. Ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des défauts qui se répartissent aléatoirement sur cette zone, et suivant la taille de ton circuit dessus, s'il est énorme ton circuit sur les wafers, bah, tu as beaucoup de chances d'avoir des erreurs sur chacun de tes circuits, et donc ça réduit tes chances d'avoir des circuits fonctionnels au total. Et donc ça, c'est la probabilité qu'un circuit marche, on appelle ça le yield, et en fait ces techniques-là qui consistent à désactiver des cœurs ou des bouts de mémoire, c'est des optimisations pour... qui servent à augmenter le yield, c'est-à-dire augmenter la probabilité d'avoir des circuits fonctionnels. Et ça permet d'économiser de l'argent, parce que ça coûte quand même de l'argent de faire fabriquer.
Il y a Ranchin qui demandait qu'est-ce que les terres rares ont de si spécial pour permettre une telle avancée technologique, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les contourner?
Je réfléchis.
Bah, si je peux donner un certain de réponse, ce qu'elles ont de spécial, c'est que ce qu'on sait faire de plus performant, on sait pas le faire sans, en fait. C'est un prérequis.
Effectivement, c'est juste qu'en fait, on constate que c'est plus performant avec que sans. En réalité, c'est, pour, par exemple, pour le silicium, il y a certaines, par exemple, quand on a vu, comme avait dit Hart, à partir de 5 nanomètres, c'est d'autres, c'est plus du silicium en fait, c'est du gallium et peut-être arsenic, ou je sais plus, c'est des alliages. Et effectivement, on est obligé de faire ça pour avoir cette technologie-là. Après, donc par exemple, pour l'interconnexion, tu es obligé d'avoir certains matériaux parce qu'ils ont la capacité d'être flexibles et d'être résistants. Voilà, c'est des capacités mécaniques ou électriques qui font que on est obligé de passer par là. Et à chaque fois, effectivement, c'est rare, c'est les avancées de la recherche qui disent, voilà, si on mélange ça et ça, c'est plus performant. Comme on cherche toujours la performance, on cherche toujours cette erreur. On pourrait revenir en arrière, par contre, ben, on serait beaucoup moins performant. Donc là, j'ai posté la part des pays dans l'échange des circuits en microélectronique, enfin en électronique tout même, enfin en électronique intégrée, il y a un peu de tout. Donc on voit que la France est à 0,95% du marché mondial. Einstein qui dit, je trouve étrange que les atomes qui sont les plus efficaces dans la technologie sont aussi les plus rares. Le monde est mal fait. Ou bien fait, ça se trouve, c'est fait pour pas qu'on fasse de la technologie avancée. Hein. Alors, Aquan qui pose la question, est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser les technos plus anciennes vu la baisse de de valeur que tu expliquais? Oui, pour des applications qui n'ont pas besoin de grandes performances. Par exemple, il y a quelques années, on pensait que l'Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet des objets, allait être la nouvelle révolution des smartphones, comme les smartphones l'ont été il y a quelques années. Ça ne l'a pas été, ça sera peut-être. Pas. Et du coup, en fait, ces technologies, enfin ces objets-là, ils ont besoin de beaucoup moins de consommation, beaucoup moins de puissance et beaucoup moins de traitement de données. Du coup, ça peut être intéressant d'utiliser des technologies moins avancées, moins coûteuses aussi. Parce qu'en fait, ce qui est important pour ces objets-là, c'est qu'ils soient très peu chers. L'idée, c'est en fait justement de produire beaucoup, très peu cher, et après de se rémunérer d'une autre façon. Il y avait une idée qui avait été lancée, c'était être le premier à avoir le langage commun que devraient avoir les objets pour communiquer entre eux, le protocole de communication. Et du coup, après, justement, faire une licence pour utiliser ce protocole de langage. Comme on domine les objets et qu'il y en a partout, les gens sont obligés de payer une redevance, enfin, un prix pour l'utilisation de ce protocole. Mais ça s'est pas fait, donc on verra ça plus tard, si jamais ça se prend. Alors, Linvi qui dit, ou Lin 4, Lin 6, on parle de nouveaux processeurs à tenseur, Google avec AlphaFold, par rapport au processeur à vecteur. Pouvez-vous commenter sur l'augmentation en puissance, en consommation des ressources d'énergie ou diminution? Alors, je connais pas trop, j'ai lu un article quelques temps dessus, mais de mémoire, je crois que c'est juste pour les traitements d'images ou ce genre de choses. Je suis pas expert là-dedans. C'est justement en fait pour traiter l'information de manière tensorielle, c'est-à-dire qu'avec avec plusieurs, enfin, plusieurs croix, comment dire, intersection, multiplication. Avec un calcul tensoriel plutôt qu'avec un calcul vectoriel pour les images. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Et après, en termes de consommation, je pense que c'est assez similaire au processeur classique. C'est juste par rapport à la performance. Vas-y.
Oui, bah vu que la performance, du coup, elle est vachement décuplée, enfin, vu qu'elle peut en faire plusieurs à la fois, enfin, qu'elle fork un petit peu, quoi.
C'est ça.
Au final, c'est le rapport énergie consommée par rapport à la puissance. Il reste très bon par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Pour faire la même chose, on aura besoin, avec un processeur classique, on aura besoin de beaucoup plus d'énergie.
Alors pour faire cette activité, effectivement, avec un processeur classique, il faudrait beaucoup plus d'énergie, effectivement. Donc effectivement, c'est de l'IA avec du deep learning. Et il est en structure, complète structure. C'était pour des protéines, pour modéliser leur comportement. Moi, j'ai pas de détails techniques sur comment ça fonctionne. Donc bah, je vais regarder, je te dirai ça plus tard. Alors effectivement, ce que dit Art est important, c'est que l'Europe a beaucoup délaissé la microélectronique, l'industrie en général, la microélectronique en particulier, parce que c'est un secteur assez, assez important et assez technique, une technologie dont dépend beaucoup de choses, dont l'armement. Et du coup, c'est un peu embêtant parce qu'on est en retard sur comparé aux autres pays. Bien que c'était l'Europe qui avait mis quelques milliards, je sais plus combien, sur les nouvelles technologies, en particulier sur la microélectronique. Mais bon, c'est pas ça qui va changer le retard qu'on a. On a du retard, mais on a quand même des technologies de pointe, avec le CEA Leti qui est assez en avance sur les nouvelles technologies. Et merci Renshin pour le lien. Sur le Leti, par exemple, on a des groupes de chercheurs qui ont commenté et recalculé le soi-disant exploit de Google avec l'ordinateur quantique, en disant on a réussi à faire des calculs que un ordinateur classique n'aurait pas pu faire en 10 fois l'âge de l'univers. Je grossis, ce n'est pas ça exactement. Du coup, ils ont dit oui, mais un ordinateur classique. Peut-être, mais un ordinateur optimisé avec un algorithme spécifique pour ça, non. Du coup, effectivement, ils ont mis un petit peu à mal les déclarations de Google qui disaient on a la suprématie quantique. Non, non, on y est toujours loin. Il y a une bonne conférence de Minatech là-dessus. Je peux la retrouver si vous voulez.
Est-ce que ça existe des processeurs spécialement designés pour casser les clés de chiffrage ?
J'en connais pas. Ça m'étonnerait pas que ça existe, mais que ce soit pas ouvert à tout le monde.
Ouais, voilà.
Ouais, ça m'étonnerait pas que ça existe. Ça, c'est sûr qu'il y a de la recherche dessus, ça c'est certain. Mais comme ça, officiel, j'en connais pas.
Il y en a bien pour crypter justement. Du coup, l'inverse, c'est forcément faisable. Et forcément fait. Quand on regarde les ASICs pour juste miner le Bitcoin, par exemple, c'est un peu le principe.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait des processeurs pour miner le Bitcoin spécifiques aussi. Ouais, je pense que ça doit exister, hein. Après, comme tu dis, comme c'est fait pour décrypter, c'est assez sensible.
Et je me demande d'ailleurs si on fout un ASIC de minage de Bitcoin, hein, décrypté, des clés SA256, si ça marche bien ou pas, quoi. C'est une question, il faut essayer. Il y en a une occasion à pas trop cher.
Après, je ne sais pas quel est le plus rentable, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est qu'est-ce qui est le plus rentable sur la recherche. Par exemple, si on veut décrypter, le plus facile, ce serait de l'électronique quantique. Mais vu à quel point on en est, je suis pas sûr qu'on y arrive. Après, effectivement, avoir des trucs spécialisés pour ça, ça doit se développer, mais en secret. Après, sinon au niveau cyber, enfin sécurité, donc il y a la sécurité couche architecturale, au niveau de l'architecture, c'est-à-dire qu'on va empêcher d'avoir des, comme des backdoors, ce genre de choses. Et il y a quelques temps, on faisait de la recherche sur la sécurité au niveau hardware, parce qu'en fait, on peut, par exemple, injecter certains signaux. Dans le processeur pour soit encore actif sur nos choses. Et donc du coup il y a beaucoup de développement qu'il y a à faire et qui permettent justement d'avoir une idée sur la mémoire, comment elle était et ça c'est un peu embêtant.
Il faudra envoyer cette information-là à l'autre bout aussi, quoi, du coup. Pour qu'il vérifie que ça n'a pas changé en chemin.
Bah en fait, tu interceptes. Enfin, c'est pas la communication, c'est vraiment comme quel état du processeur et de la mémoire à l'instant T. Du coup, bah, tu le récupères. Par exemple, si tu voles le téléphone de quelqu'un, il a ses codes de carte bleue dessus. Et toi, tu peux pas y accéder parce qu'il y a un code, enfin, un code PIN. Mais tu peux y accéder à la mémoire, donc tu chopes sa mémoire et après tu. Sa mémoire vive. Et après, tu regardes ce qu'il y a dedans.
Ok. Ça évite, c'est pour vérifier s'il n'y a pas eu contournement, c'est ça.
C'est ça. La faille Spectre a été une grosse faille, effectivement. Et Dame Zéro aussi.
C'est pour ça que ça pourrait être pas mal de mettre de l'organique en fait dans tout ça.
Ça mettrait l'aléatoire.
Bah, pour voir sa stabilité en fait. S'il y a une intrusion, peut-être que ça le déstabiliserait et puis que ça se verrait plus facilement.
Ouais, je sais pas comment c'est. Ouais, peut-être.
Changerait de couleur.
Il ferait alerte, alerte. Donc Donc j'ai posté qu'est-ce qu'il y avait dans les smartphones. Et après le code couleur. Il n'y a pas le regroupement par les terres rares par contre.
On va peut-être bientôt arrêter l'enregistrement. Est-ce qu'il y aurait des choses que quelqu'un voudrait rajouter pour les auditeurs du podcast, des choses qu'on n'aurait pas encore dites, ou de même, est-ce qu'HKMN, tu as une sorte de conclusion ou des choses qu'on n'aurait pas abordées qui te semblaient importantes, ou quelqu'un veut encore parler un peu?
Dernière question.
Combien HKMN touche pour ce livre blanc? Mais notre éternelle gratitude, ça n'a pas de prix, Cap, tu sais bien.
Voilà. Donc, petit mot de la fin. La microélectronique va bien en ce moment. Elle a encore quelques années devant elle. Bien qu'il y ait beaucoup de red flags qui commencent à se lever. Donc, à voir. Mais il y aura sûrement des nouvelles technologies qui vont arriver. Et donc, du coup, c'est toujours motivant.
Excellent, merci pour toi HKMN, je coupe le bot.
Ouais, merci.
Avec plaisir.